Bonjour à toutes et à tous, il est midi et demi, bienvenue pour votre journal de la mi-journée.
Tolérance zéro, on contrôle le port du masque, on contrôle les attestations et après le couvre-feu, on sera présent également avec plus de 120 policiers déployés aujourd'hui.
La police niçoise ne plaisante pas en ce week-end de confinement. À Nice, il fait beau et chaud, mais les habitants doivent rester chez eux. Reportage dès le début du journal. Et puis de l'autre côté de la France, on ira à Dunkerque qui connaît le même sort que Nice. Enfin, on reviendra sur le sujet avec mon invité Mathieu Klein, maire de Nancy, qui demande un reconfinement local depuis des mois. En l'absence du Salon de l'agriculture cette année, Europe 1 part à la rencontre du monde agricole et monte au soutien des agriculteurs toute cette semaine. Vous entendrez le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, invité ce matin d'Europe 1. Les États-Unis, Nicole Bacharan, historienne et spécialiste du pays, va nous parler de ce plan de relance historique et des premiers pas diplomatiques de Joe Biden sur le dossier saoudien. Enfin, on ira à Marseille où la révolution s'organise. Le président de l'OM, Jacques-Henri Hérault, perd sa place et c'est tout le vélodrome qui respire. Et puis la météo complète à la fin du journal avec Valérie Darmon. Voilà pour le programme. Bienvenue dans Europe Midi.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
À Nice, le soleil a donc percé les nuages en fin de matinée, mais pas de promenade des Anglais, pas de baignade. Non, à Nice ce week-end, on reconfine pour tenter d'endiguer l'épidémie de Covid, repartie de plus belle. Frédéric Michel, vous êtes notre correspondant et ce qui vous a marqué ce matin en déambulant dans les rues, c'est la très forte présence des forces de l'ordre, des policiers, partout pour contrôler.
Oui, une présence très visible et dès 8h du matin, premier contrôle à l'entrée de la promenade des Anglais.
Bonjour monsieur, police municipale, contrôle d'attestation s'il vous plaît.
Muni de son attestation de sortie, ce couple de Niçois est en règle.
On a les enfants, on va faire les courses de bon matin avant qu'il y ait la cohue et confinement après à la maison.
Richard Gianotti, le directeur de la police municipale de Nice.
L'objectif de tout le week-end, c'est tolérance zéro. On contrôle le port du masque, on contrôle les attestations et après le couvre-feu, on sera présent également avec plus de 120 policiers déployés aujourd'hui.
Sur la route, en patrouille pédestre ou à vélo, gendarmes, policiers nationaux et municipaux quadrillent le terrain. Peu d'infractions constatées ce matin. On a vu surtout des Niçois faire du sport ou leurs courses, comme Karine.
Messieurs, dames, bonjour.
Juste aller au marché, voilà, se ravitailler, c'est tout. C'est une sortie comme les autres et puis on en profite comme on peut. Hein. Et après, on rentre chez nous.
Et pour Jackie, qui habite le Mieux-Nice, le week-end s'annonce très long.
J'ai pas de terrasse, etc. Donc c'est un peu compliqué. Donc on regarde la télévision et on se dit vivement lundi le boulot. Je me suis acheté ce qu'il faut pour faire une bonne raclette. Je vais manger une raclette midi. Soir. Voilà.
Depuis hier soir, une petite centaine de PV a été dressée et une fête clandestine avec une vingtaine de participants interrompue dans un quartier niçois. Reste à savoir si cet après-midi, avec le beau temps, les habitants des Alpes-Maritimes respecteront ce premier week-end de confinement.
Frédéric Michel à Nice. Et puis on rappelle les chiffres nationaux. Plus de 86 000 décès liés au Covid. Plus de 1 800 admissions en réanimation ces 7 derniers jours. Alors, on était à Nice, mais c'est la même situation à Dunkerque, dans le Nord, pour les 250 000 habitants de son agglomération. Et l'on retrouve Maximilien Carlier. Maximilien, Dunkerque confiné, des habitants un peu résignés, mais qui ont au moins eu un petit soulagement en voyant que les librairies étaient restées ouvertes.
Oui, effectivement, Simon, on voit beaucoup de sourires dans la librairie de Dunkerque. Christian, le gérant, est très satisfait d'être considéré comme un commerce essentiel.
Quand j'ai appris cette nouvelle hier, effectivement, vers 16h, qu'on pouvait rester ouvert, j'étais très, 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 très heureux. Enfin, le gouvernement a pris conscience que les livres et la librairie, c'était peut-être aussi important que la nourriture pour le ventre et la nourriture pour l'esprit. Hier, j'ai envoyé 80 message à mes clients pour leurs commandes qui sont arrivées. Et à chaque fois, j'avais mis un petit PS en disant « On est ouvert aujourd'hui, n'hésitez pas à venir, on est là ».
Et des lecteurs, des lectrices, il y en a ce matin plus que d'habitude. On achète des livres, parfois pour s'occuper pendant le confinement.
On est ici ce matin pour s'approvisionner un peu. Quoi.
Dans cette période de résilience, où ce qu'il faut absolument prendre sur soi-même, vive la lecture.
C'est vraiment l'endroit où on a besoin de se cultiver. Voilà. On est ravis. C'est pour ça qu'on vient dans les petites librairies de ce monsieur en particulier.
Et selon le responsable, une fermeture les week-ends lors de ce troisième confinement aurait pu entraîner une baisse importante de son chiffre d'affaires.
Maximilien Carlier du côté de Dunkerque. Alors on vous parle de reconfinement, vous entendez ces Niçois, Dunkerquois, parfois un peu fatalistes, résignés avec le retour de cette chape de plomb. Voilà pourquoi on a aussi voulu sourire un peu dans ce journal de la mi-journée. Certains et certaines d'entre vous ont la chance d'avoir pu savourer quelques jours de vacances et ça fait du bien d'entendre vos sourires.
Un bol d'air bien frais, on a aspiré à la liberté, c'est clair.
On est allé à la plage.
plage magnifique là-bas. Le virus, j'avais complètement oublié. J'étais très bien.
Ce sont effectivement des très grandes plages. Du coup, on peut se promener sans le masque. C'est même bizarre quand on le porte plus.
J'ai juste entendu dire que Madame Hidalgo voulait confiner Paris pendant 3 semaines. Alors moi qui habite sur Paris, je pense qu'on pense qu'à ça pratiquement. Et là-bas, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'on fait quand on oublie ? On rêve et on vit.
Nicolas Feldman qui nous a partagé ses petits bonheurs de vacancier. Vous le savez peut-être, cette année Covid oblige, pas de salon de l'agriculture, en tout cas pas dans sa forme classique. Mais sur Europe 1, on a pris une décision. Les agriculteurs, les agricultrices, on ne va pas les lâcher pour autant. Et toute la semaine à venir, nous allons partir à la rencontre de ceux et celles qui, notamment, nous font manger. D'ailleurs, c'est l'un des combats du ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, invité d'Europe Matin. Il a rappelé que la grande distribution devait négocier avec les agriculteurs des accords commerciaux équitables.
Ce que je constate, c'est que certains acteurs ne respectent pas la loi. Donc le ministre que je suis met beaucoup de pression, parce que des négociations commerciales, c'est un rapport de force, et que le gouvernement rentre dans ce rapport de force en démultipliant les contrôles. Parce qu'à la fin des fins, ce qu'il faut bien comprendre, demain, si la grande distribution, si les industriels ne changent pas leur comportement et continuent toujours à tirer les prix vers le bas, ce sont nos agriculteurs qui vont disparaître et on sera face à une situation que je n'accepte pas, qui est d'importer. Moi, je crois dans notre agriculture, je veux la souveraineté de notre modèle agroalimentaire et donc je mets beaucoup de force pour faire respecter cette loi. Et puis j'irai même plus loin, on est en train de réfléchir à changer encore et améliorer cette loi pour faire en sorte qu'on arrête cette dégradation de valeur, cette destruction de valeur qui est un non-sens.
Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture, au micro de Thierry Dagiral. Après qu'un adolescent de 15 ans a été tué par balle hier à Bondy, 2 auteurs présumés ont été placés en garde à vue ce matin. Ces 2 personnes, âgées de 19 et 27 ans, se sont présentées d'elles-mêmes à la police. La piste privilégiée à ce stade est un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants.
Europe Midi, Simon Rubin.
On marque une pause dans ce journal et puis après la pub, on part aux États-Unis et on va aussi prendre des nouvelles de l'OM où la crise se porte toujours très bien.
Europe Midi. Simon Rubin.
Aux États-Unis, la Chambre des représentants a adopté le vaste plan de relance de presque 1 600 milliards d'euros pour faire face à la crise liée au Covid. Et pour en parler, je reçois l'historienne Nicole Bacharan, spécialiste des États-Unis. Bonjour.
Bonjour.
Nicole Bacharan, ce plan de relance, presque 1 600 milliards d'euros, que certains qualifient d'historique, le mot est adapté, c'est un plan historique ?
Ah oui, c'est absolument historique. C'est le plus vaste plan jamais proposé et probablement jamais adopté, même s'il va y avoir encore des modifications. Pour mémoire, quand au moment de la crise financière de 2008-2009, Barack Obama a lancé un grand plan de relance, on était à 700 milliards. Donc vous voyez qu'on en est très très loin quelques années plus tard.
Le chômage qui ravage les États-Unis, on est vraiment dans un contexte qui est extrêmement inquiétant, vacillant aux États-Unis, il faut le rappeler aussi.
Oui, tout à fait. Et l'importance, l'urgence de ce plan de relance, c'est que les aides directes aux familles et les indemnités de chômage arrivent à expiration à la mi-mars. Donc, vous voyez la date, on est le 27 février. Il faut absolument, absolument que ce plan soit passé. Il sera passé, mais il doit être voté dans les mêmes termes au Sénat. Il y a des modifications qui vont être apportées, notamment sur la question du relèvement du salaire horaire minimum. Mais il y aura en tout cas un plan très vaste d'aide aux familles, d'indemnités de chômage, d'aide à la distribution des vaccins et d'aide aussi aux autorités locales, aux États et aux municipalités qui n'arrivent plus à assurer les services publics.
Alors l'autre actualité outre-Atlantique, Nicole Bacharan, c'est la publication d'un rapport du renseignement américain qui accuse le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, d'avoir approuvé le meurtre du journaliste et opposant saoudien Jamal Khashoggi en 2018. C'est Joe Biden qui a permis la publication de ce rapport et qui prend, on va dire prudemment, ses distances par rapport à l'Arabie Saoudite.
Oui, il prend ses distances très prudemment et on voit un Joe Biden qui, entre sa position de principe en 2018, qui était de dire il faut sanctionner directement le prince Mohamed Ben Salman, Aujourd'hui, en fait, il prend des sanctions contre des personnes, des Saoudiens, liées à l'assassinat. Ça fait longtemps qu'on sait que ça vient directement d'en haut. Donc il y aura des sanctions financières, des sanctions sur les visas de voyage, mais pas de sanctions directes contre le prince lui-même, parce que Joe Biden, il a besoin de l'Arabie Saoudite pour contenir l'Iran, pour lutter contre les groupes terroristes, pour poursuivre les négociations dans tout le Moyen-Orient pour des accords de paix avec Israël, par peur aussi que les Saoudiens se rapprochent de la Chine. Donc on voit que l'exercice du pouvoir dans le monde réel est très difficile.
On assiste au premier pas de Joe Biden, qui est en train d'apposer sa marque et d'essayer de tourner la page d'un Donald Trump qui, lui, dans le même temps, est aussi quand même en train d'essayer d'exister encore, notamment en faisant pression sur les élus républicains qui ne l'ont pas soutenu assez, juge-t-il. La situation reste complexe entre ces deux hommes-là, le président sortant et le nouveau président élu.
La situation est très difficile parce que Joe Biden, c'est un pragmatique. Il a déjà dit aux démocrates du Congrès, négocier, même sur la question du salaire minimum qu'on évoquait ensemble, il faut négocier, il faut faire passer le plan de relance. Mais il a toujours besoin quand même, non seulement de l'unité dans son camp, mais sur quelques sujets, de quelques voix républicaines. Et là, évidemment, Donald Trump entre en scène de nouveau demain par un discours public où on peut s'attendre à ce qu'ils veulent se venger des républicains qui ne l'ont pas assez soutenu, qu'ils jugent même qu'ils l'ont trahi et qu'ils poussent à des positions tout à fait extrêmes vis-à-vis des programmes de Joe Biden. Donc, d'une certaine manière, Joe Biden négocie avec son propre camp, avec les républicains modérés et indirectement un petit peu avec Donald Trump, selon l'influence que celui-ci réussira ou non à conserver sur son parti.
Eh bien, on le voit et on le comprend, Joe Biden est en train, par ses décisions à l'intérieur et puis hors des frontières, d'essayer de tourner la page Trump. Merci, Nicole Bacharan. Et je rappelle qu'on peut replonger dans l'un de vos derniers ouvrages, Le Monde selon Trump. Sa lecture, qui est évidemment extrêmement intéressante avec l'éclairage d'aujourd'hui, c'est paru chez Talendier. Le monde qui change aux États-Unis, mais le monde qui change sur Europe 1, on vous le raconte aussi avec cette histoire, symbole du dérèglement climatique. On va vous parler d'un iceberg monumental, plus grand que la ville de Paris, qui se détache en ce moment de la banquise antarctique. On est du côté du pôle sud, Damien Mestre.
Vertigineux comme phénomène. En fait, vu du ciel, il faut imaginer une immense étendue de glace parfaitement blanche, mais qui se retrouve traversée par une faille interminable sur des centaines de mètres. C'est tout simplement le bloc de glace qui est en train de doucement s'arracher. Ce qu'il faut craindre, c'est qu'une fois détaché, ce bloc laisse s'écouler derrière lui des masses de glace encore plus importantes, de l'eau qui provoque une élévation du niveau de la mer, phénomène malheureusement bien connu des climatologues comme Hervé Le Treut.
Ce qui est certain, c'est que c'est un processus qui est une des conséquences très directes du réchauffement de la planète. On est face à un problème qui est effectivement un problème grave parce qu'il est relativement inéluctable. Jusqu'à présent, on n'a pas réduit nos émissions de gaz à effet de serre. Elles continuent de se stocker dans l'atmosphère. Il y a une partie du futur qui est écrit. Donc on est face à un problème qui, pour le moment, on ne maîtrise pas.
En attendant, l'immense bloc de glace, lui, devrait a priori s'effriter en plusieurs morceaux avant de lentement dériver vers des eaux plus chaudes.
Damien Mestre, on passe au sport et ce tremblement de terre du côté de l'OM. On a appris tard hier soir que Jacques-Henri Hérault, jusque-là président du club, était démis de ses fonctions. Un coup de balai que les supporters réclamaient depuis des mois. Il s'agit là d'une nouvelle étape dans la longue et lourde crise que traverse l'OM, mais peut-être aussi le début d'une résurrection. Le reportage de Stéphane Frangy à Marseille.
Il n'y croyait plus au départ de Jacques-Henri Hérault, alors évidemment le sang de Gabi n'a fait qu'un tour quand son téléphone a bipé.
J'ai sauté au plafond. J'étais sur le canapé quand je me suis connecté sur Twitter et que j'ai vu ça. J'ai sauté au plafond. C'est un soulagement. Vaut mieux tard que jamais. Qu'il soit plus président, quel soulagement.
On en retient quoi de Jacques-Henri Hérault ?
Rien du tout. Pour moi, c'est le pire président de l'Olympique de Marseille.
De la joie, oui, mais de la méfiance également, car Jacques-Henri Hérault reste dans l'organigramme du club en tant que membre du conseil de surveillance. Et puis surtout, les effets d'annonce du propriétaire du club, Franck McCourt, eh bien, Thierry a appris à s'en méfier.
McCourt a dit qu'il venait sur Marseille, qu'il allait rencontrer les groupes de supporters, qu'il allait avoir de gros changements. Enfin, si on se rappelle, en octobre 2016, on devait finir dans les trois premiers, on devait jouer la Champions League, on devait battre le PSG tout le temps, et puis on a vu le résultat. Donc, j'attends de voir.
Mais certains veulent tout de même croire à des jours pour meilleur, avec l'officialisation également, et c'est une des informations de ce communiqué, du nouvel entraîneur, l'Argentin Jorge Sampaoli. Marseille, Stéphane Frangier, Europe.
Et puis la Ligue 1, cet après-midi, un Bordeaux reçoit Metz. D'ici quelques minutes, coup d'envoi 13h. Le PSG se déplace à Dijon à 17h, presque 7 jours après sa défaite à domicile contre Monaco 2-0. On rappelle hier la défaite de Rennes à domicile, 2-1 face à Nice. Et puis en ski, le tout récent champion du monde du géant, le français Mathieu Fèvre, est en tête de la première manche du côté de Bansko en Bulgarie. Alexis Pinturault est troisième. Il nous reste à voir le temps, la météo pour ce samedi avec vous Valérie Darmon et le soleil qui arrive un peu partout.
Tout à fait Simon, même si les grisailles de ce matin ont du mal à se dissiper par endroits encore le long de la Manche et elles vont même revenir en soirée et s'étendre toujours un petit peu des Côtes d'Armor à la Normandie, Hauts-de-France, mais en revanche de l'Alsace, de la Lorraine à la Champagne, au bassin parisien, aux régions atlantiques. Le beau temps est bien installé depuis ce matin et il va durer sans écueil et sans nuages jusqu'à ce soir et même demain. Le temps est toujours plus nuageux des Pyrénées au Morvan avec de la neige vers l'Auvergne jusqu'au Préalpes. Ce temps instable qui se décale progressivement vers PACA dans la journée. Les maximales varient entre 9 et 12 sur la moitié nord, parfois pas plus de 5 à 8 en Auvergne, entre 11 et 15 sur le sud-ouest et 13 à 16 sur le sud-est. On est toujours légèrement au-dessus des normales de saison.
Et bien voilà de belles nouvelles. Merci Valérie Darmon.
Europe Midi, Simon Rubin.
On marque une pause. À suivre, mon invité Mathieu Klein, maire de Nancy, président du Grand Nancy. Nul doute qu'il aura suivi avec un vif intérêt les confinements du week-end du côté de Nice et Dunkerque. Pourquoi ? Eh bien parce que sa ville est très touchée par le Covid et surtout parce qu'il réclame pour Nancy un reconfinement local depuis des mois. A tout de suite. En Lorraine, la Meurthe-et-Moselle et la Moselle font partie des départements en vigilance maximale, des départements qui pourraient être amenés à se reconfiner bientôt si l'épidémie de Covid s'amplifie encore sur ces territoires. Une décision qui ne manquerait pas de faire réagir le maire de Nancy, Mathieu Klein, qui est mon invité. Bonjour à vous.
Bonjour.
Si je dis ça, Mathieu Klein, c'est parce que vous avez demandé à plusieurs reprises ces derniers mois un reconfinement local pour votre ville. C'est toujours ce que vous réclamez ?
Vous savez, moi, j'essaie d'ajuster aussi la position que nous prenons à la réalité de la circulation de l'épidémie. Lorsque je demandais un reconfinement local en décembre avant Noël, nous étions en Meurthe-et-Moselle à près de, un taux d'incidence de près de 300. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que le taux d'incidence est plus faible, mais les variants sont là et circulent beaucoup. Et dans un contexte où la Meurthe-et-Moselle est sous l'influence en fait de la situation mosellane qui a été très critique, qu'il est encore aujourd'hui. C'est notamment le cas du nord du département, en proximité de la frontière luxembourgeoise et de la frontière allemande et de Metz. Donc, la situation est un peu moins tendue sur le sud, c'est-à-dire autour de Nancy, mais il n'en reste pas moins que nous sommes toujours sur un plateau haut qui parfois fluctue à la hausse, parfois fluctue à la baisse, mais qui reste néanmoins assez élevé. Ce que je souhaite surtout, c'est que nous ne persistions pas dans des mesures qui, jusqu'à présent, n'ont pas fait preuve pleinement de leur efficacité.
Voir Nice et Dunkerque se reconfiner le temps du week-end, ça vous inspire quoi ?
Vous savez, j'ai un peu de réticence à parler d'un confinement lorsqu'on parle du week-end. Pour moi, c'est une extension du couvre-feu, en réalité. C'est élargir l'interdiction de circulation sur une période courte. Je ne suis pas convaincu que les mêmes causes ne finiront pas par reproduire les mêmes effets, c'est-à-dire que oui, le couvre-feu a certainement ralenti la progression de l'épidémie, en tout cas c'est ce que nous avons constaté sur le territoire de Nancy et du Grand Nancy et en Meurthe-et-Moselle, mais non, le couvre-feu n'a pas suffi à enrayer, à casser la dynamique de l'épidémie. D'ailleurs, à l'hôpital, si la situation a pu connaître une légère décrue à Nancy il y a une semaine, nous voyons déjà là, à nouveau, les indicateurs repartir à la hausse, mais qui sont toujours de toute façon sur un niveau élevé. Donc je crois que si le confinement doit être une hypothèse, et il en est sans doute une, passé un certain niveau de circulation, il faut qu'il soit complet pour fonctionner, plutôt que de finalement continuer à avoir des mesures qui certes désorganisent d'un point de vue économique et social la société, sans doute contribuent à ralentir la circulation du virus, mais ne remportent pas suffisamment d'effets pour être pleinement convaincante.
On l'a vu du côté de Dunkerque, la présence forte, très forte présence du variant britannique hein, fait partie notamment des données, des variables qui ont amené à reconfiner le temps d'un week-end. Est-ce que chez vous, du côté de Nancy, vous et vos équipes avez réussi à identifier, à préciser la présence, l'importance de la circulation de ce variant chez vous ?
Alors d'abord, je voudrais faire une précision simplement pour montrer que à l'heure où nous parlons, et je suis prudent dans ce que je dis, nous ne sommes pas dans les mêmes situations. À Dunkerque, vous avez un taux d'incidence qui a dépassé, si je ne fais pas d'erreur, les 900 pour 100 000 habitants, qui est donc tout à fait critique. Nous sommes dans la métropole du Grand Nancy, à l'heure où je parle, à 180 pour 100 000 habitants. Donc, il faut garder raison en termes de comparaison. Ensuite, en ce qui concerne la circulation des variants, le variant anglais est présent, mais de façon beaucoup moins significative que dans d'autres territoires, je pense notamment à Dunkerque et à Nice. Quant au variant sud-africain, qui a lui été repéré de façon plus fréquente en Moselle, il est aussi du coup un peu plus fréquent en Meurthe-et-Moselle. En fait, sur cette zone finalement entre Metz et Nancy, qui est la zone qui a marqué profondément la situation critique dans le département voisin du nôtre depuis quelques semaines. Donc, il existe, les variants existent, les variants circulent incontestablement, comme sur le territoire national, mais pas du tout dans les mêmes proportions qu'à Nice ou à Dunkerque, aujourd'hui en tout cas.
Vous parlez de confinement, vous appelez un reconfinement, on va dire, plein et entier. Ça ne doit pas être évident vis-à-vis de vos administrés. Ils vous disent quoi, les Nancéens ? Est-ce qu'ils vous disent il faut y aller, il faut le faire ? Ou est-ce qu'ils sont plus, comme les Niçois, les Dunkerquois, quand même résignés ? Parce que ce n'est pas simple quand même de demander une telle mesure.
Vous savez, il n'y a pas de solution simple depuis le début de la pandémie. Donc, s'il y en avait une, je crois que tout le monde l'utiliserait. Ensuite, moi, lorsque j'utilise le mot confinement, je veux que ça corresponde à une réalité épidémique. Vous savez, on ne jette pas l'idée de confinement comme ça dans le débat, juste pour faire un bon mot. Aujourd'hui, s'il faut confiner, il faut confiner les territoires dans lesquels le virus circule activement. Si la Meurthe-et-Moselle se retrouve à nouveau, ou le Grand Nancy se retrouve à nouveau au-dessus des 250, voire des 300, et je ne parle même pas des chiffres de Nice ou de Dunkerque, oui, bien sûr qu'il faut confiner. Et quand je dis qu'il faut confiner à ce moment-là, c'est parce qu'il faut donner des perspectives claires. Il faut dire que nous confinons pendant un certain temps, et que en même temps, nous accélérons la campagne de vaccination. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Vous ne pouvez pas avoir des départements et des territoires qui sont identifiés parce qu'ils sont en situation plus difficile ou critique pour certains d'entre eux, sans qu'il y ait en retour une accélération des mesures, notamment et principalement la vaccination et les dépistages aussi, bien sûr. Donc ce que nous souhaitons, ici comme ailleurs, c'est que la vaccination accélère de façon à pouvoir revenir à une maîtrise plus importante de l'épidémie. Et c'est d'autant plus vrai que lorsque nous voyons aujourd'hui les bons résultats, finalement, du ralentissement de la circulation du virus chez les 75 ans et plus, c'est la démonstration, s'il était encore besoin de la faire, que c'est aujourd'hui le seul chemin à emprunter. Et les habitants, au final, vous savez ce qu'ils attendent aujourd'hui ? Ils attendent de la visibilité. Je crois qu'ils préféreraient savoir que pendant une, deux, trois semaines, eh bien, le confinement est complet, plutôt que d'avoir le sentiment qu'ils vont encore traîner à durée indéterminée des mesures qui sont des mesures partielles, qui effectivement génèrent une fatigue sociale, économique et une lassitude qui est très importante. Il faut des perspectives et c'est la raison pour laquelle j'insiste vraiment sur la vaccination, et y compris la vaccination AstraZeneca. Je souhaite vraiment que nous sortions de cette polémique que je trouve particulièrement stérile sur AstraZeneca. AstraZeneca fonctionne, certes, comme tous les vaccins, il peut entraîner des effets indésirables, mais il y a le paracétamol pour cela. Et donc, je veux bien, moi, que nous sacrifions un peu de paracétamol pour pouvoir vacciner plus vite toute la population, y compris avec AstraZeneca.
En quelques mots, vous appelez également à davantage de contrôle. Aujourd'hui, vous en avez,
oui,
les moyens,
absolument.
Parce qu'on voit quand même dans beaucoup de communes qu'une partie des polices municipales sont mises hors jeu parce qu'elles sont malades, parce que les agents sont malades.
Alors, il y a des agents malades, mais ce n'est pas le cas massivement aujourd'hui à Nancy. La police municipale, c'est une chose, mais moi, j'appelle aussi à un renforcement des moyens de la police nationale. Là aussi, je demande au gouvernement d'être conséquent. Il signale, il met en avant 20 départements dans lesquels la situation est plus difficile. Donc il faut que dans ces 20 départements, il y ait des moyens de vaccination supplémentaires, des moyens de dépistage supplémentaires et des moyens de sécurité supplémentaires pour pouvoir effectivement dans ce contexte, et là je vous parle avec vue sur la place Stanislas sous le soleil, je peux vous dire que oui, bien sûr, tout le monde a envie de ressortir, tout le monde a envie de profiter du beau temps, de ce printemps précoce en Lorraine, mais il faut aujourd'hui impérativement, au moment où la tentation est la plus grande, renforcer les mesures de prévention et de contrôle. C'est important, sinon nous ne viendrons pas à bout de cette pandémie.
Renforcer les mesures de prévention et de contrôle, le message est envoyé. Merci Mathieu Klein, maire de Nancy, d'avoir été mon invité. On va marquer une pause avant les infos de 13h. Et puis tout terrain, je vous accompagne encore sur l'émission des reporters d'Europe 1. Allez, pêle-mêle, on va évidemment reparler du Covid, on parlera de vaccination. Vous allez le voir, les médecins se veulent pédagogues avec les patients. On ira du côté des chantiers de Notre-Dame de Paris, notamment chez les tailleurs de pierre qui sont en train de tailler les blocs de roche calcaire qui serviront à la reconstruction. Et puis il y aura une belle page sport entre les premiers pas de Pochettino au PSG et les galères Covid encore du 15 de France. À tout de suite.